J'ai une petite question pour vous qui nous écoutez. J'aimerais que vous vous demandiez si vous seriez volontaire pour faire partie d'une expédition vers Mars. Vous pouvez réfléchir un peu, mais au final, je suis certain que vous êtes relativement nombreuses et nombreux à vous dire que tiens, oui, pourquoi pas. Quand je dis nombreux, je pense pas que vous soyez des millions, mais peut-être quelques milliers, ce qui est déjà beaucoup. Et si j'ajoute maintenant que le financement de la mission, tout le financement de la mission, depuis votre salaire et celui des ingénieurs, jusqu'au matériel et aux ressources, que tout serait financé par l'exploitation médiatique de l'aventure. Qu'est-ce que ça changerait? En gros, ce serait de la télé-réalité. On vous filmerait du matin au soir, depuis vos premiers entraînements jusqu'à l'embarquement dans la fusée, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage, ou l'amarcissage plutôt, vu que vous arriveriez sur Mars. En espérant évidemment que tout se passe bien et que vous ne ratiez pas la planète. J'imagine que vous êtes déjà probablement bien moins nombreux à vous dire que c'est une bonne idée. Et si je précise qu'en plus, il s'agit d'un aller simple, que personne ne viendra vous chercher là-bas, qu'il vous faudra construire votre propre habitat et que votre quotidien continuera à être filmé jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous seriez toujours partante ou partant? Franchement, il faudrait être à moitié fou ou plutôt complètement inconscient pour accepter. Et pourtant, peut-être que certains d'entre vous se souviennent que c'était exactement le projet d'une compagnie privée nommée Mars One. Cette société, fondée en 2012, avait pour objectif d'envoyer des humains sur Mars de manière permanente et de financer cela par de la télé-réalité. Alors qu'une compagnie se crée sur un projet pareil, admettons. Mais ce qui est pour moi totalement incompréhensible, c'est qu'il y a eu 2761 candidatures. 2761 hommes et femmes qui étaient d'accord pour partir comme ça, vers Mars, alors que pas un seul scientifique ne pensait que c'était possible. Ils appelaient ça même une mission suicide. Au final, évidemment, la société Mars One a fait faillite, mais l'idée d'aller sur Mars et d'y rester n'a pas disparu, bien au contraire. Et c'est pour parler de la possibilité de vivre dans l'espace, que ce soit aux alentours de la Terre, peut-être sur la Lune, peut-être sur Mars, que j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir à mes côtés trois invités que voici.
Bonjour, je suis Guillemette Gauquelin-Corps, je travaille au Centre National d'Études Spatiales, après avoir été enseignant-chercheur une quinzaine d'années à Lyon 1. Je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, je ne pensais pas du tout travailler sur l'espace au départ, quand j'ai commencé ma carrière de chercheur. Ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était système cardiovasculaire, rénal. Et en fait, quand j'ai fait ma première thèse au laboratoire à Lyon, le laboratoire a été contacté par le Centre National d'Études Spatiales pour savoir si on voulait travailler sur l'espace, et notamment pour le premier vol de Jean-Loup Chrétien. J'ai donc commencé ma carrière avec Jean-Loup Chrétien et je la termine avec Sophie Anneau. J'ai bouclé la boucle.
Bonjour, je suis Barbara Balizi, je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Interstellar Lab. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance, à financer des start-up et des jeunes innovateurs qui voulaient construire des robots et des intelligences artificielles. Et depuis 7 ans, j'ai ma propre société et on travaille sur créer des systèmes automatisés dans lesquels on va recréer des climats pour permettre à la vie de pousser sur Terre et dans l'espace. Mon rêve, c'est d'aller dans l'espace, c'est d'emmener le vivant dans l'espace. Et tout ça est né, je pense, quelque part des lectures que j'ai pu avoir de la science-fiction et de ma passion pour Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
Bonjour, je m'appelle Thiago Rodriguez, je suis directeur du Festival d'Avignon, je suis metteur en scène, comédien, auteur. Ma dernière pièce, La Distance, qui est écrite au Festival d'Avignon, raconte l'histoire de science-fiction intime d'Ampère qui reste sur la Terre, jouée par Adama Diop, une fille jouée par Alison Deschamps, qui part en Mars et de leur correspondance pendant 2 ans sur la Terre, 1 an sur Mars. Et cette notion qui me fascine aussi, par rapport à l'espace, qui est celle que de la distance peut nous rapprocher, la notion de l'immensité pour nous rapprocher de notre humanité.
Thiago Rodriguez, Barbara Belvisi, Guillemette Gauquelin-Corps, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en public dans le studio 621 de la Maison de la Radio et nous allons parler de vivre dans l'espace.
Big Bang, Christophe Galfard.
Thiago Rodriguez, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'idée de vivre dans l'espace? Qu'est-ce que c'est que cet intime dont vous parliez à l'instant qui apparaît peut-être avec la distance? Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, on disait avant que les meilleurs couples, c'était les couples de marins, hein, qui ne se voyaient jamais. Peut-être que ce serait pareil pour dans l'espace.
Je pense que l'infini qui nous inspire l'espace nous fait penser autrement à notre quotidien et transforme la façon dont on voit nos vies. Chaque fois qu'on pense un peu, qu'on prend le temps pour penser à l'immensité, on a un autre rapport avec la réalité, avec nos journées, avec les gens qui nous entourent. Je sais pas si mieux, si mais différent. Je suis fasciné par l'espace aussi par ça, parce que penser à cette question et pouvoir, comme aujourd'hui avec Barbara et avec Guinette, poser des questions à des gens qui savent vraiment de quoi elles parlent, c'est satisfaire une curiosité que je pense que tout le monde a, que moi j'ai aussi. Et quand j'ai écrit cette pièce La Distance, je voudrais aussi poser une question que rarement on voit poser quand on pratique la fascination de l'espace, de l'espatial, où parfois on parle beaucoup de technologie, de tout ce qui va changer, etc. Mais comment va-t-on aimer, par exemple ? Comment aime-t-on quand on est dans l'espace ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'espèce humaine quand elle sera interplanétaire ? Comment vont les gens parler de la distance, de la proximité, de l'amour, du manque de quelqu'un ? Et avec cette pièce, je voudrais ça, je voudrais m'intéresser à comment ça va se passer, comment vont les gens manger en Mars, même si c'est de la fiction pour le moment. Mais on pense à ça. C'est très enraciné dans notre imaginaire collectif, l'hypothèse de l'humanité en Mars. Et cette hypothèse, elle nourrit nos jours. Après, on a beau dire, ça va prendre énormément de temps, c'est peut-être jamais possible, etc. Mais on songe. On rêve de ça, ça veut dire que ça nous influence déjà. Et alors, en écrivant cette pièce, j'ai compris à quel point on rêve déjà de ça, de cette chose qui peut-être va jamais se passer, mais qui nous influence déjà, et qu'il y a des questions qu'il faut se poser. C'est très intéressant, cette idée de plus de 2000 personnes qui ont accepté, avec le projet, l'entreprise Mars 1, de partir en Mars.
En aller simple. Sans jamais revenir.
A priori, c'est l'aller simple qui intéresse l'humanité aussi. C'est l'aller simple qui est la fascination. Évidemment, on se
et
dit...
Et qui est angoissante aussi.
Quand on parle avec Inette, avec Barbara, oui, bien sûr, mission scientifique, bien contrôlée, il faut apprendre avec, comment transformer nos vies dans la Terre, avec ce qu'on va apprendre dans l'espace, dans la Lune, en Mars. Mais pour le simple citoyen, l'imagination de l'aller simple, d'une espèce qui part comme des gens pourrait partir il y a quelques siècles d'un continent à l'autre, etc. Imaginez qu'on part sans savoir ce qui va se passer, sur le mystère absolu, c'est quelque chose qui, c'est un fantasme qui nous intéresse encore aux humains beaucoup.
Et si on prend cette analogie des explorateurs il y a quelques siècles qui partaient découvrir d'autres mondes, avant de partir, il fallait construire un bateau. Et éventuellement, savoir, pour transformer le rêve en réalité et que les rêves aillent plus loin encore, il faut commencer à comprendre comment fonctionne l'espace qui est autour de nous et l'impact qu'il peut avoir sur le corps humain, notamment. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait maintenant 25 ans que l'espace est habité en permanence. Depuis novembre 2020, il y a des astronautes dans la station spatiale. Et aujourd'hui, là, maintenant, il y a 10 personnes qui sont dans l'espace. 7 qui sont dans la station spatiale internationale et 3 dans la nouvelle station chinoise, Tiangong, qui est opérationnelle depuis 2022. Guillaumette Gauquelin-Corps, vous qui donc n'avez pas choisi de travailler sur l'espace mais êtes tombé dedans au final, vous êtes responsable de la médecine spatiale au Centre National d'Études Spatiales. Est-ce que vous pouvez nous raconter, ou est-ce qu'on peut essayer de découvrir ensemble, quels sont les problèmes auxquels nos corps vont devoir faire face ou font déjà face dès l'instant où on s'éloigne de notre petit monde? Ça sert notamment à ça, d'envoyer des gens dans l'espace, c'est de vérifier si on pourrait éventuellement aller plus loin plus tard.
Oui, vous avez dit qu'on était habité depuis 25 ans, mais en fait, il ne faut quand même pas oublier Mir, qui a été la station des Russes, dans lesquelles on a énormément travaillé, surtout nous les Français. En fait, on a envoyé beaucoup de Français dans la station Mir. Et en fait, on a travaillé petit à petit, en fait, petit pas par petit pas. Je me souviens du vol de Jean-Luc Chrétien, où on faisait des images échographiques qui, maintenant, quand on les regarde, effectivement, on ne voyait vraiment pas grand-chose.
Jean-Luc Chrétien, pour les plus jeunes peut-être qui nous écoutent, c'était un des premiers astronautes
français.
C'était le Thomas Pesquet de l'époque.
Qui est monté, en 1982, qui était beaucoup moins médiatique à l'époque, puisqu'en fait, on ne pouvait pas discuter avec lui directement de la station jusqu'à sur la Terre. On avait simplement des communications toutes les heures et demie. Donc, en fait, on n'avait pas du tout une communication comme actuellement avec la Station Spatiale Internationale. Donc tout allait beaucoup plus lentement. Et il faut quand même dire qu'on a beaucoup appris, nous, la France, de la part des Russes, pour tout ce qui est médecine spatiale, tout ce qui est physiologie, etc. Alors pour résumer, en fait, si vous voulez, moi, ce qui me passionne dans ces recherches-là, c'est le fait que, moi, je suis physiologiste, donc j'ai la méthode de Claude Bernard, on enlève le facteur principal et on regarde ce qui se passe. Et en fait, nous, on a été complètement façonnés, notre corps a été façonné par la gravité. En fait, il n'y a plus de gravité, donc qu'est-ce qui se passe? Que devient le cœur? Que devient les muscles, etc.? Alors en fait, bah, le cœur, il ne travaille pratiquement plus, puisqu'il n'a plus son rôle de pompe, comme il fait pour les muscles, apporter du sang aux muscles, etc. Les os, on ne s'en sert pratiquement plus, en fait. Les muscles non plus, donc en fait, il y a des modifications assez importantes. Et en fait, c'est quoi un astronaute? C'est quelqu'un qui ne fait pas du tout d'exercice musculaire, malgré qu'il fasse 2 heures par jour. En fait, c'est un corps vieillissant très rapidement. Donc c'est de l'ostéoporose, c'est des problèmes cardiaques, c'est des problèmes musculaires, c'est des problèmes au point de vue métabolique, etc. En fait, c'est ça qui est passionnant, de voir comment un corps peut se transformer. Donc en fait, on dit que ces études sont faites dans l'espace, mais en fait, elles sont faites également beaucoup sur Terre, puisqu'en fait, c'est quoi ces maladies de gens qui ne font aucun exercice? C'est effectivement l'ostéoporose, le diabète, les insuffisances de part et d'autre.
Et ça, ce sont des maladies qu'on voit apparaître chez les astronautes?
C'est un prémisse de ces maladies-là, on va dire. Mais comme quand vous êtes diabétique ou quand vous êtes obèse, vous allez voir le médecin au bout de 10 ans. Donc c'est déjà bien installé. Parce que nous, nos astronautes, ont la chance, en fait, d'être très très surveillés, d'être jour par jour pratiquement. Donc en fait, on voit l'installation de ces maladies métaboliques, mais ils sont pas diabétiques en sortant de la station, je vous rassure.
L'impact sur le corps humain de cette absence de gravitation, ou plutôt cette absence de sol qui stoppe la gravitation ou la gravité, cet impact-là sur le corps humain, on le voit apparaître assez rapidement ou au bout de longtemps. Je crois que la plus longue période passée par un humain d'un seul coup dans l'espace, c'est plus de 450
oui,
jours
par
Polyakov dans la station Mir. Est-ce que, au bout de 450 jours, comme vous dites, le corps a réellement vieilli?
Le corps a vieilli, oui, c'est sûr, il a réellement vieilli. Mais ce qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est réversible. Alors que nous, souvent, c'est pas réversible, nos maladies sur Terre. Donc en fait, en fonction des systèmes, ça vient plus ou moins progressivement. On s'aperçoit, par exemple, quand vous montez dans l'espace, vous avez une partie du sang qui est dans la partie inférieure du corps, qui monte dans la partie supérieure du corps, puisqu'en fait, on ne se sert plus de ses jambes, etc. Donc on voyait très rapidement un visage bouffi.
On disait oui,
un
sur visage les en, images, on voit qu'ils ont
lune,
la tête toute ronde.
En fait, ouais. Au bout de 3-4 jours. Et puis après, une nouvelle répartition, etc. Donc le visage en lune disparaît. On voit, quand ils reviennent, ils ont ce qu'on appelle des jambes de poulet, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout de muscles dans les jambes. Et en fait, ça s'installe petit à petit. Donc l'ostéoporose apparaît au bout d'un mois ou deux mois, les problèmes cardiaques au bout de très peu de temps. Mais en fait, au départ, en fait, quand on a lancé l'AICA, la chienne, c'était parce qu'on pensait que le cœur allait exploser. En fait, le cœur, il se comporte très bien. Il se déconditionne. Il se dit, j'ai plus rien à faire.
L'AICA, c'est le premier animal qu'on a envoyé dans l'espace.
La première chienne qui a été envoyée par les Russes. En fait, il n'a plus rien à faire, le cœur. Donc, il se déconditionne, il se repose. Mais c'est au retour où, là, les problèmes commencent à arriver.
Alors, quand on est dans l'espace, il y a certes plus... La gravitation terrestre existe, évidemment, toujours. La gravitation ne s'éteint pas. Mais l'effet que ça a sur nous commence à différer parce qu'en réalité, on est en chute permanente. Mmh. On n'a plus de sol qui vient de bloquer notre chute et qui, voilà, ferait jouer les muscles et les os. On appelle ça de la microgravité, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand même autour. Barbara Belvisi, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer une expérience pour tester cette microgravité dans l'espace. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Alors, nous, on ne s'occupe pas des humains directement, mais on s'occupe des plantes, de recréer des systèmes biosphériques, donc en fait un petit peu comme notre planète. Nous, on va emmener des plantes dans l'espace pour permettre de créer de l'oxygène et de capturer du CO2, puis en même temps fournir de la nourriture. Du coup, l'étape numéro 1, c'est d'aller dans la station spatiale. Donc on travaille aujourd'hui avec une société américaine et avec la NASA pour envoyer une première petite serre. Donc on fait des grandes serres, on fait des petits cubes, on fait différents formats. Et là, c'est une petite parce que c'est un petit module spatial. Et on part pendant 3 ans, à partir de l'année prochaine, en orbite autour de la Terre. Il va y avoir 4 missions d'astronautes qui vont monter. et qui vont rester 10 jours dans la station et qui vont redescendre. Donc en fait, c'est une société américaine qui s'appelle VAST et qui prépare l'après Station Spatiale Internationale, parce que celle-ci va être décommissionnée en 2030, si je ne me trompe pas. Donc on n'aura plus de Station Spatiale Internationale, mais ça, il va y avoir une relève qui arrive. Et donc là, on va partir avec une de ces entreprises qui fait ça. Et ce qu'on va mesurer, bah, c'est un petit peu la même chose, mais sur les plantes. Donc en fait, on va envoyer une plante, on va regarder comment elle grandit dans l'espace. Notre première mission, ça sera certainement une mission sur un rosier. Je parlais du Petit Prince en introduction, mais on travaille avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry.
Tout est lié. Il y a une logique dans votre parcours.
Exactement. Et donc, on va envoyer un petit rosier à l'intérieur d'une capsule qu'on va venir plugger dans la station. Et on va regarder comment évolue ce rosier pendant 10 jours. Et on espère le faire fleurir et ensuite le ramener sur Terre. Et ensuite, le rosier, ce qui se passe, comme les êtres humains, en allant dans l'espace, les plantes vont réagir extrêmement vite, en fait, à l'absence de gravité et vont changer. Alors, c'est pas leur ADN directement, mais c'est en fait leur composition métabolomique. Et donc, en fait, elles n'auront pas la même carte d'identité après un voyage spatial. Donc, le rosier qui est monté, il passe un peu de temps dans l'espace. Quand il revient, il a changé. C'est pas le même code. Et donc là, on va regarder quel est son code, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a développé une autre couleur, est-ce qu'il a développé plus de feuilles, comment la fleur, elle a plus grandi. Et on va mesurer donc cet impact de microgravité pour, en vulgarisant énormément la science et l'impact de la gravité. En fait, c'est comme si la gravité est un ralentisseur des événements biologiques. Quand vous enlevez la gravité, tout s'accélère. C'est pour ça que ça va plus vite et que le corps vieillit. C'est vraiment une extrême vulgarisation. Je pense que les scientifiques ne seraient pas contents de ce que je dis, ou peut-être pas, mais c'est vraiment ça. Donc quand on quitte la Terre, en fait, on n'a plus cette force qui ralentit tous les événements biologiques. Et donc, tout s'accélère et tout va plus vite. Et donc, quelque part, par exemple, je prends le cas des plantes, les plantes mettent moins d'énergie. Sur Terre, elles vont mettre de l'énergie pour lutter contre la force de la gravité, donc pour monter, pour aller vers la lumière. Donc elles vont construire des tiges importantes. Quand elles sont dans l'espace, en fait, elles n'ont plus rien à... Il n'y a plus de boxe avec la gravité. Donc du coup, elle va allouer son énergie différemment, pousser beaucoup plus vite, la croissance est accélérée dans l'espace, et différemment. Et donc c'est ça qu'on va essayer de mesurer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer quand on est la plante sur la Lune, qu'est-ce qui va se passer quand on va l'emmener sur Mars.
Il y a quelques années, il me semble qu'une salade avait été poussée dans la Station Spatiale Internationale et que, gros festin, elle avait été mangée par les astronautes là-haut. C'est dans ce but aussi, j'imagine, que vous avez fait toutes ces expériences.
Dans le but de produire de la nourriture pour les astronautes. Alors dans la Station Spatiale, il y en a un peu moins besoin, parce qu'en vrai, le ravitaillement se fait avec la Terre et on arrive assez rapidement à aller dans la station spatiale, amener de la nourriture aux astronautes. Il n'y a pas de danger de mort pour l'astronaute de pas faire pousser ses propres plantes. Sur la Lune, ça se complique un peu, le ravitaillement est un petit peu plus cher, mais la distance reste quand même acceptable. Par contre, il n'y a pas de ravitaillement possible avec Mars, parce que là, on va très loin. Donc là, il y a besoin d'emmener de la nourriture sur Mars. Le problème avec la nourriture prépackagée, vous voyez les petits sachets lyophilisés, c'est qu'en fait, et notamment pour Mars, elle se dégrade à cause des radiations solaires.
On allait y venir.
Voilà. Et donc, du coup, il faut pouvoir faire pousser des plantes pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels des astronautes dans l'espace.
Guillemette Gauquelin-Cor.
Oui, non, je voulais juste préciser qu'effectivement, nous, on s'intéresse également beaucoup à la nourriture spatiale, puisqu'il faudra produire sur place. Mais en fait, le gros problème actuellement, c'est par exemple, si on produit de la nourriture sur Mars, comment sera cette nourriture? Sera-t-elle comestible ou pas? Parce qu'en fait, avec la quantité de radiation qu'il y a, donc en fait, il y a toute une quantité d'études qui est faite sur l'effet des radiations sur les plantes. C'est-à-dire qu'on met des plantes dans des petits simulateurs qui s'appellent Mars Simulator. On met exactement les mêmes radiations que ce qu'ils auront sur la Lune. Et en fait, on regarde sur différentes générations, par exemple, de tomates. Au bout de la génération 6, est-ce qu'il y a toujours autant de radiations ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de radiations? Est-ce que le cycle cellulaire de la tomate est différent ou pas? Donc en fait, c'est quand même un problème très très important, tout ce qui est plantes et nourriture, pour l'astronaute, que ce soit sur la Lune ou sur Mars.
Oui, parce qu'on a parlé, là, comme problème dans l'espace, on a parlé du fait que la gravité soit plus ressentie différemment, disons, par les objets et les organismes vivants dans l'espace. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Dès l'instant où on s'éloigne de la Terre, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes protégés sur Terre d'énormément d'attaques, on pourrait le dire comme ça, de l'espace. Il y a déjà le fait que l'espace est plus ou moins vide, qu'il n'y a pas grand-chose, donc nos corps ne sont pas habitués à ça, mais il y a aussi ces fameuses radiations dont vous parlez à l'instant, qui sont de plus ou moins deux types. Il y a celles qui peuvent venir du Soleil, et qui sont extrêmement fortes, et d'autres plus puissantes encore, mais moins nombreuses, qui viennent du reste du cosmos. Et si on n'a pas de protection contre ces radiations-là, nos corps eux-mêmes, y compris notre ADN, peut se retrouver brisé ou changer. Est-ce que ce sont des choses déjà sur les humains autour de la Terre qui se voient, ou est-ce qu'à 400 km, les stations spatiales sont encore protégées par la Terre?
Dans la station spatiale internationale, en fait, il y a très peu de radiation. Ils sont quand même beaucoup protégés par la Terre, et en fait, on a fait peu d'études justement là-dessus jusqu'à maintenant, parce qu'on savait que c'était pas le facteur primordial en fait sur les astronautes. Par contre, c'est vraiment le gros problème pour la Lune et pour Mars. C'est évident. Donc en fait, c'est pour ça que, par exemple, les Américains ont lancé avec Artemis le premier module avec des mannequins, en fait, pour simuler, pour voir quelle radiation ils allaient pouvoir avoir sur le corps humain. Donc, il y a eu des femmes, des hommes, pour voir s'il y a une différence entre les femmes et les hommes, en reconstituant les os mous, etc. Et on peut voir qu'effectivement, ils vont se ramasser comme énormément de radiation. Il faudra vraiment une très, très grande protection.
Et comme nous allons partir sur Mars juste après la musique, je vous propose d'écouter Life on Mars de David Bowie. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the best-selling show. Is Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, l'auteur et metteur en scène de théâtre Thiago Rodriguez, la biologiste spatiale Guillemette Gauquelin-Corr et l'entrepreneur spatial Barbara Belvisier, et bien entendu le public du studio 621.
Christophe Galfard, Big Bang.
Alors effectivement, on apprend beaucoup de choses sur le comportement des corps des astronautes qui sont autour de la Terre, mais la Terre est protégée et protectrice, pardon, de nos astronautes lorsqu'ils sont dans la Station Spatiale Internationale. Si on va plus loin, on sort de toutes ces protections qui sont de deux types. Déjà, il y a l'atmosphère qui peut bloquer certains rayons, et il y a aussi le champ magnétique terrestre qui permet de dévier les particules chargées ultra-énergétiques qui nous arrivent de l'espace. Mais dès qu'on s'éloigne, eh ben ces protections, elles ne sont plus là. Pour aller jusque la Lune, en moyenne, un voyage va mettre entre 3 à 4 jours. Si on veut gagner du carburant, ça peut prendre des semaines, mais si on va tout droit et qu'on va assez vite, ça prend 3-4 jours. Pour aller plus loin, pour aller sur Mars, par exemple, le voyage prendrait, disons, si on envoyait des gens là-bas aujourd'hui, environ 9 mois. 9 mois dans l'espace, 9 mois dans une capsule pour arriver sur une planète qui est particulièrement hostile. Est-ce que, Barbara Belvisi, l'idée d'envoyer des humains sur Mars vous paraît plus possible aujourd'hui qu'elle ne l'était lors de Mars One, il y a quelques dizaines d'années? Et je précise juste, j'ai dit tout à l'heure que la station spatiale était habitée depuis 2020 et que ça faisait 25 ans. Non, pas du tout. Elle est habitée depuis l'année 2000 et ça fait donc bien 25 ans. Pardon, je vous relance.
Alors oui, le voyage sur Mars, moi je fais partie de... Je suis entrepreneur, donc par définition je suis optimiste. Donc oui, on va y aller, on va y arriver. Pourquoi aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années en arrière? Tout d'abord par les progrès technologiques qui ont été faits et aussi par une nouvelle vague dans le spatial qui est la vague entrepreneuriale et des start-up qui aujourd'hui sont des très grosses start-up hein, à coup de milliards avec en première piste deux sociétés qui sont SpaceX et Blue Origin. Donc, qui développe aujourd'hui les lanceurs avec un objectif d'emmener la vie sur la Lune et sur Mars. Donc, Mars, c'est un objectif partagé par les deux sociétés. Donc, moi, j'y crois et je vois aussi tous les efforts et toutes les personnes, qu'elles soient ingénieurs, scientifiques, et tous les moyens qui sont mis derrière pour pouvoir y arriver. Alors, il y a plein de choses à valider, hein, d'un point de vue technologique, scientifique, biologique, pour permettre cette vision de devenir une espèce multiplanétaire, mais ça y est, on est rentré dans le vif du sujet aujourd'hui.
Thiago Rodriguez, si vous deviez aller sur Mars, vous iriez tout seul ou vous emmèneriez votre amour avec vous?
Ah, j'irai pas. C'est
déjà.
C'est un cauchemar fascinant, mais c'est un cauchemar pour moi personnellement.
Alors, pour moi aussi, mais je vais.
Il y a une espèce de vertige qui attire vers le cauchemar. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça pose énormément de questions. Comme je vous avais dit, j'écris une pièce à propos d'un père qui reste sur la Terre, une fille qui part sur Mars. Et dans cette pièce, parfois, en créant la pièce et avec l'aide de scientifiques comme l'astronome Maria Azevedo, mais aussi avec toute l'équipe, Sophie Bricaire, la dramaturge, etc., on se posait des questions, notamment, souvent, on demandait, est-ce qu'on est vraiment sur un projet de colonisation? Les scientifiques ont la tendance à dire, non, mission scientifique, ça sera nécessaire, mais colonisation, c'est un peu science-fiction. Après, il y a un travail sérieux vers la colonisation, où la colonisation motive plan de décision économique, d'entrepreneurs, etc., pour aller vers ça. La question qu'on se pose, c'est, mais est-ce que c'est pas une vie, pour le moment, même avec la meilleure imagination de développement scientifique qui nous permet, avec la bonne énergie, le bon fusée, d'amener vraiment une grande quantité d'humains sur Mars, est-ce que ce n'est pas vraiment une vie de cauchemar terrible, de confinement dans des grottes de volcaniques pour être protégé des radiations, etc. Ou est-ce qu'il y a, par exemple, le projet qui semble vraiment science-fiction ancienne de terraformer? Est-ce qu'il y a un rêve où Mars n'est pas hostile pour les humains? Ça, c'est une question que je voudrais bien vous poser.
Guillemette, est-ce que Gauquelin-Corr, est-ce que vous voulez vous lancer dans une réponse?
Moi, je suis comme vous, je n'irai pas sur Mars. Déjà pas sur la Lune ni sur, dans l'ISS, donc le problème est réglé. Moi, je suis quand même beaucoup moins optimiste. Hein. Je ne pense pas que dans quelques années, on puisse envoyer des hommes sur Mars. La technologie, j'y crois, effectivement, on pourra aller peut-être sur Mars, mais vraiment à vide actuellement, parce qu'il y a quand même énormément de choses à résoudre. En plus de tous les problèmes physiologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a toute une quantité d'autres problèmes qui s'ajoutent. Déjà, ne serait-ce que la communication. C'est-à-dire qu'actuellement, avec l'ISS, on discute, comme je discute avec vous aujourd'hui. Pour Mars, il y aura 20 minutes pour entendre la question des astronautes et 20 minutes pour répondre. Alors là, c'est l'isolement le plus complet. En plus, les voyages de 9 mois, bon, le maximum a été fait par Polyakov, mais pendant 9 mois, on ne sait pas comment l'organisme va se comporter. Il va falloir quand même qu'il fasse un minimum d'exercices, des contre-mesures, etc. Donc en fait, pour l'instant, tout ça, ce n'est pas au point. Ensuite, ils vont arriver avec une mini-gravité quand même. Donc de passer de 0G à la gravité martienne, comment ça va se passer? Parce qu'actuellement, on voit que quand les astronautes redescendent, ils ne marchent pas sur leurs deux petites jambes. Il faut quand même les porter, etc. Donc, ils sont incapables de marcher normalement en redescendant, ne serait-ce que de l'ISS. Donc, quand ils arriveront sur Mars, comment ils vont faire?
La gravité à la surface de Mars est en gros un tiers de la gravité sur Terre. Donc, quelqu'un qui, en gros, pèse 60 kilos sur Terre, pèserait 20 kilos là-bas.
Voilà, exactement.
Mais c'est après du zéro dans l'espace.
Voilà, après du zéro dans l'espace pendant 9 mois. Donc, c'est quand même loin d'être réglé. Il y a tous les problèmes psychologiques. Alors, on envoyait qui là-haut? C'est ça notre gros problème, en fait, dans les agences. On envoie, ça sera à peu près 4 personnes. On envoie quoi? 4 garçons, 4 filles, mariés avant, pas mariés avant, etc. En fait, il y a des problèmes psychologiques qui sont tels. Moi, je me rappelle que Jean-Luc Chrétien me disait « Je passe au-dessus de ma Bretagne 16 fois par jour ». Donc c'est vrai qu'ils ont quand même une vue superbe quand ils sont dans l'ISS. Là, ça sera le noir sidéral pendant 9 mois.
Ça fera longtemps qu'ils n'auront même pas vu la Terre.
Voilà. Et là-haut, je ne vous dis pas comment ça sera par rapport à la Station Spatiale Internationale, qui est quand même relativement agréable à vivre. Donc je pense qu'il y a tout un problème des radiations, des confinements, les os, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution, parce que plus les vols sont longs, plus les os s'abîment, donc on n'a toujours pas trouvé de solution. Donc il y a quand même beaucoup, je ne veux pas être pessimiste, mais de problèmes à résoudre. Souvent, je dis que je travaille pour mes petits-enfants, en fait. Je pense que c'est eux qui verront peut-être un jour quelqu'un sur Mars.
Tout à l'heure, vous disiez qu'après un séjour dans l'espace, les effets sont réversibles une fois qu'on est de retour sur Terre. Oui. Est-ce qu'on a la moindre idée s'il y a une certaine limite à cela, dans le sens où passer un certain temps passé dans l'espace, eh ben, ce n'est plus réversible?
Pour l'instant, on n'a pas assez de recul, parce qu'en fait, les vols sont entre 6 mois et 1 an. Alors, pendant très longtemps, on a dit tout ce qui est ostéoporose, etc., c'est réversible. Mais plus on fait des instruments performants, parce qu'en fait, on est obligé de faire des instruments très performants pour l'ISS et pour la Lune et Mars après, on se rend compte qu'en fait, au bout de 6 mois de vol, 6 mois après, ils n'ont toujours pas récupéré leur capital osseux. Là, on est en train de faire des expériences pour voir au bout de 18 mois si effectivement ils ont récupéré. Mais on n'a pas encore assez de recul, en fait, pour savoir au bout de 9 mois dans le voyage, 6 mois là-haut, 9 mois retour, qu'est-ce qu'on va récupérer.
D'autant plus que la rapidité de la réparation peut être liée aussi, peut-être, à la gravité. Donc, si elle est 3 fois moindre sur Mars, peut-être que les temps de réparation sont encore beaucoup plus longs. Et les yeux aussi, il me semble qu'ils sont impactés.
Alors les yeux sont impactés. Alors ça, c'est un symptôme qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il faut dire que quand on est astronaute, on n'a jamais rien là-haut. On se porte toujours très bien, on n'a pas d'effet secondaire, on n'a rien parce qu'on veut repartir. Donc en fait, c'est assez difficile aussi de savoir exactement comment ils se comportent quand ils sont là-haut.
Vous voulez dire que quand ils reviennent sur Terre, ils disent « je vois très bien », mais ils ne voient rien du tout, en fait.
Donc, c'est ça, pas à ce point-là, mais bon, on a appris ça après en discutant avec des cosmonautes russes, qui, eux, savent qu'ils vont plus ou moins repartir quand même, qu'effectivement, il y avait des problèmes au point de vue de la vue. Et en fait, on pense que c'est plutôt une hypertension au niveau des yeux qui provoquerait cette perte de vue. Mais c'est pas trop, trop catastrophique, on va dire.
J'ai une petite question pour notre public. Vous allez répondre très fort, comme ça on vous entend bien. Qui parmi vous, vous me dites oui si c'est vous, qui parmi vous aimerait faire partie des gens qui iront sur Mars un jour? Vous êtes jeunes, j'ai l'impression que vous avez tous moins de 18 ou 19 ans. Qui voudrait aller sur Mars un jour? Vous faites oui, très fort, si vous applaudissez, si vous avez envie de partir. Personne. Donc, pour vérifier qui préfère rester sur Terre. Oui, c'est ça. Barbara, Belvisi, j'ai l'impression que vous allez être toute seule dans votre vaisseau pour aller sur Mars.
Non, il y a du monde. Après, moi, je ne suis pas une anti... la vision, ce n'est pas de déplacer l'humanité et de quitter la Terre. C'est de permettre aux vivants de devenir, de pas être dépendants d'une seule planète. En gros, c'est la vision qui est partagée par beaucoup d'entrepreneurs dans le spatial. Notre système solaire a la moitié de sa vie, enfin notre planète a la moitié de sa vie.
On parle quand même de 4,5 milliards d'années encore.
Ouais, alors réalistiquement parlant, avec tout, il reste 100 à 200 millions d'années à passer avec des conditions qui sont vivables pour la vie. Et jusqu'à présent, ce qu'on sait, c'est que la seule vie consciente qu'on connaisse dans l'univers à ce jour est sur Terre. Et donc, ça serait un petit peu dommage, quand même, de pas s'occuper, de se dire que cette conscience et cette vie foisonnante, en fait, est dépendante d'une seule étoile. Donc, ça s'inscrit dans un temps extrêmement long, en fait, ou d'une seule planète. Ouais. Donc, ça s'inscrit dans un temps extrêmement long. Avec une vision qui est de dire, en fait, dans notre époque actuelle, l'humain aujourd'hui est capable de faire des fusées. Et donc, il y a une fenêtre de tir pour essayer de faire, de rendre la vie multiplanétaire. Moi, je fais partie de ceux qui ont je sais pas si c'est une croyance ou en tout cas une vision, en fait, que la vie va se répandre. Pour moi, on fait partie de la vie. Donc, s'il y a des êtres humains qui pensent que la vie doit sortir de la planète Terre, c'est que c'est la vie elle-même qui veut sortir. Et l'être humain n'est pas à séparer du vivant. Il en fait partie. Donc, on est un peu voilà. Donc, ça, c'est très, très, très métaphysique.
et c'est intéressant. Moi, j'ai mon directeur de thèse qui s'appelait Stephen Hawking, qui était un grand chercheur anglais. Disait assez souvent qu'il faut pas que l'humanité garde tous ses œufs dans le même panier, à savoir que s'il arrive une catastrophe ici, c'est bien qu'il y en ait d'autres ailleurs au cas où pour que l'humanité survive. Mais évidemment, ça c'est une vision à extrêmement long terme qui est très agréable. Et là, ce qu'on essaie de regarder aujourd'hui, c'est s'il fallait partir là maintenant sur Mars ou ailleurs, est-ce que c'est possible? La réponse est plutôt non. On n'est pas capable là aujourd'hui de transformer un bout de Mars. Vous parliez de terraformer Mars tout à l'heure, Thiago Rodriguez. Ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire en moins de plusieurs millions d'années, et on n'a même pas la technologie pour le faire. Donc, quand bien même on l'aurait, ça prend extrêmement longtemps, donc on peut pas faire ça, on peut pas rendre Mars...
C'est plus crédible, par exemple, d'imaginer que Mars est un entrepôt, un tremplin pour aller encore ailleurs.
Et justement, ça, exemple, c'est plutôt la Lune qui c'est serait Lune, ça pour ouais. l'instant, parce que la Lune est déjà beaucoup plus proche de nous, et on peut y aller, on peut faire des allers-retours, même si c'est long, même si c'est cher, c'est possible. Mars, les allers-retours, en gros, ça prend plus de 2 ans, parce que Mars ne tourne pas à la même vitesse que la Terre autour du Soleil, donc le temps que Mars fasse un tour, nous, on en fait 2, et il y a des moments où ils sont à un bout et l'autre, il y a le Soleil entre les deux, donc là, évidemment, on peut pas communiquer, ce que vous disiez, Guillemette, tout à l'heure, qu'on ne peut pas communiquer quand le Mars est de l'autre côté du Soleil, clairement. Donc il y a la Lune en tremplin et qui pourrait être un hub peut-être de voyage dans l'espace futur. Et toutes les recherches que vous faites pour l'instant sont certes destinées un jour peut-être à aider à aller ailleurs. Mais il y a des retombées déjà aujourd'hui sur la façon dont on vit sur Terre, n'est-ce pas, Guillemette?
Oui, tout à fait. Toutes ces études-là sont faites, en fait, entre la Lune et la Terre, et entre la Terre et la Lune, en fait, pour essayer... Tout ce qu'on va monter sur la Lune va servir à la Terre, en fait. Parce qu'on a énormément de support vie à développer. Donc, c'est du support vie qui va servir également à la Terre. Il y a toutes les infrastructures médicales qu'on est en train de mettre en place, qui servent également à la Terre. Parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les expériences médicales qui sont faites à la Station Spatiale Internationale, donc avec des instruments très performants, etc., on les aurait faites pour la Terre, mais on les aurait faites plus longtemps, en fait. Plus tard, on va dire. C'est-à-dire, tout ce qui est télé-échographie, tout ce qui est télémédecine, etc., on l'aurait fait. Mais là, on a été poussé, on va dire, parce qu'il fallait qu'on le fasse pour l'ISS. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de faire cette circularité entre la Lune, l'ISS, la Terre, etc.
Barbara.
Oui, alors nous, de manière très concrète, en fait, on a... En 2019, on avait proposé à la NASA un système de serres pour emmener des plantes pour les faire pousser sur Mars et sur la Lune. Donc, on avait un concept qui était plus de ce qu'on appelle un système de support vie biorégénératif. Donc, en fait, on allait mettre la serre et la connecter au module de vie avec les humains. Et donc, on avait proposé ce concept-là en 2019, plusieurs allers-retours avec la NASA et différentes équipes. Et puis, en fait, de ce concept de serre martienne, on en a développé une serre terrestre. et une serre qui est un peu une serre sous stéroïdes, quoi. Elle est hyper autonome, c'est une IA qui la contrôle, elle est complètement fermée, on capture du CO2, on recycle de l'eau, c'est comme une mini station spatiale sur Terre. Et aujourd'hui, cette serre, nous, on la commercialise à des acteurs de la cosmétique et des ingrédients naturels parce qu'on fait pousser des plantes très vite en utilisant moins d'eau et optimisant les ressources. Donc en fait, d'un concept de serre martienne, on a développé une serre terrestre qui permet de faire pousser des plantes de manière plus durable sur Terre. C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est un bon début. Et je vous souhaite, dans 10 ans, de pouvoir envoyer ça soit sur la Lune, soit sur Mars. Et c'est pour ça que nous allons écouter « Dans 10 ans » de Yamé.
J'ai rêvé de quelque chose d'autre que charbonner pour les autres. Moi je visais haut et j'étais seul face à mes choix. Tu devrais faire un vrai bon char, qui disait. Là tu ferais quelque chose. Ils n'ont que des regrets, ils cherchent nos roues pour leurs bâtons. Ça m'appelle beaucoup mon frère, finissez pas par y croire, non. Le vrai son, là, on va faire, pour nous c'est pas juste un plafond. Tu me verras pas ta fête, je là où tout peut se faire.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, l'entrepreneur spatial Barbara Belvisi, la biologiste spatiale Guillemette Gauquelin-Cor et le metteur en scène Thiago Rodriguez et évidemment le public du studio 621 qui se prépare à poser ses questions sur la vie dans l'espace.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors nous avons une première question de Mia.
Bonjour.
Bonjour Mia.
Donc ma question c'était, est-ce qu'il serait envisageable dans un futur lointain de produire des ressources alimentaires animales sur Mars ou dans l'espace ?
Guillemette Gauquelin-Corps, vous voulez répondre à cette question ?
Oui, il faut absolument qu'on produise des ressources alimentaires sur Mars. C'est ça un de nos nouveaux défis, en fait, que ce soit sur la Lune ou sur Mars. Pour l'instant, déjà, on commence à regarder sur la Lune. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on regarde tous les problèmes des radiations, etc., sur les plantes. Mais effectivement, on produira de la nourriture sur la Lune et sur Mars, oui. C'est un des principaux défis, en fait.
Même animal, c'est ça qui risque d'être compliqué, parce que les animaux eux-mêmes ont besoin de ressources.
Alors, ça ne sera pas des vrais beefsteaks, hein. Ça ne sera pas les beefsteaks qu'on a dans nos assiettes tous les jours. Ça sera fait à partir de cellules, etc. Mais on arrivera quand même.
Ce ne sera pas forcément des animaux, c'est ça que vous dites ?
Non, ce ne sera pas des animaux, je pense. Pas dans un premier temps.
Est-ce que ça vous donne quand même envie d'aller sur Mars manger des cellules faites dans les laboratoires, Mia ?
Moi, non, mais...
Nous avons une deuxième question d'Ulysse.
Oui, alors j'ai une question parce que sur Terre, il y a déjà des personnes qui ont réfléchi si jamais on était en contact avec une autre intelligence, mais que se passerait-il si en chemin ou sur la Lune ou sur Mars, que sais-je, on croisait un E.T., un extraterrestre ?
Barbara Belgisi.
Je la prends,
c'est pour ça que vous voulez partir, vous. Hein.
Alors, je ne sais pas si on va croiser E.T. dans un vaisseau spatial, je ne pense pas. Par contre, c'est ce qui est très probable, c'est qu'on trouve des formes de vie sur Mars. Et en fait, les émissions de gaz qu'on a pu mesurer laissent penser qu'il y a effectivement du vivant qu'on trouvera sur Mars. Alors, ce ne sera pas des petits bonhommes verts qui nous liront dans nos pensées, mais ça sera une forme de vie extraterrestre, parce qu'en dehors de la Terre. Autre chose qui est très possible dans les 10 prochaines années, et moi j'y crois beaucoup avec l'avancée de l'intelligence artificielle et les nouveaux télescopes qui ont été développés, notamment James Webb, c'est qu'on est en train de prendre plein de photos du ciel d'une qualité qu'on n'a jamais pu jusqu'à présent, et en fait on regarde les marqueurs au niveau des différentes planètes, alors comment elles passent devant le Soleil, et on essaye de repérer des planètes qui sont comme la Terre, ce qu'on appelle les exoplanètes. Et donc c'est très possible qu'il y a du vivant sur ces planètes-là. Et je pense que dans les 10 prochaines années, on va faire des découvertes extraordinaire à ce niveau-là, où on va se rendre compte qu'en fait, on n'est pas les seuls dans l'univers à être en vie.
Alors, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Barbara Belvisi est extrêmement optimiste sur plein de choses. Alors, il se trouve que pour cette dernière partie, je partage votre optimisme que notre technologie commence à nous donner accès à des mondes tellement lointains qu'on n'avait jamais vus et d'une diversité folle que peut-être qu'effectivement, on arrivera à trouver d'autres choses. Par rapport à Mars, comme vous le disiez, en réalité, à moins de vraiment tomber sur quelque chose avec nos robots, c'est probablement la présence humaine sur Mars qui nous permettra de répondre à cette question. Et pour moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles, certes, envoyer des millions de gens, ça me paraît absurde, mais quelques scientifiques, dans quelques années, le temps qu'il faudra pour que ce soit bien, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est important, il me semble, d'y aller. Thiago, vous aviez une question, vous aussi, Thiago Rodriguez.
Oui, déjà, je veux faire un préambule et dire que le fait que j'ai dit que c'est un cauchemar pour moi d'aller en Mars n'empêche que je trouve essentiel qu'on rêve d'aller en Mars. Pour des questions scientifiques, mais aussi parce que l'espèce, elle bouge par curiosité, par fascination, et la pratique de cette curiosité passe aujourd'hui par Mars, par l'espace, elle passera par d'autres choses à l'avenir.
Et comme le disaient Barbara Belvisi et Guillemette Gauquelin-Corps tout à l'heure, ces rêves qu'on essaie de transformer en réalité à travers la science permettent des avancées technologiques sur Terre qui ont des impacts dans notre vie de tous les jours.
Et comme je travaille en théâtre, c'est sur les sentiments, le psychologique, le rêve, le désir, le souhait, la curiosité, que je voudrais poser une question. On a parlé un peu sur l'impact physiologique et sans doute qu'il y a aussi un impact psychologique de la présence de longue durée dans l'espace. Imaginez ce qui pourrait être l'impact psychologique de Mars, de ne plus voir la Terre. Est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a un impact aussi physiologique de cette dimension psychologique qui est déjà étudiée. Qu'est-ce qui se passera un jour quand des humains iront sur Mars ?
Guillemette Gauquelin-Corps, vous avez une...
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites, et notamment dans des stations comme Concordia, donc qui sont des stations où les gens restent pendant un an, la plupart du temps, sur Terre, mais qui sont totalement isolés, en fait. Alors, il y a les impacts pendant que les gens sont dans la mission, et après, au retour de la mission. Parce qu'après, ils reviennent, un peu comme les militaires, ils reviennent chez eux, ils reprennent la vie de tous les jours, etc. Et c'est à ce moment-là que c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais effectivement, je pense qu'il peut y avoir une vie en dehors de la Terre. On peut aller sur Mars, on peut aimer sur Mars, il suffit simplement de s'organiser. On se rend compte, par exemple, que dans Mir, il y avait quand même pas mal de petites bagarres. Alors que dans l'ISS, ça se passe beaucoup mieux parce qu'en fait, c'est international. On se rend compte qu'en mélangeant toutes les nations, qu'en mélangeant des hommes et des femmes, ça se passe beaucoup mieux, au point de vue psychologique, qu'en mettant trois hommes, trois cosmonautes russes dans la station Mir pendant 6 mois.
Je vous propose, pour continuer, de vous faire écouter un petit son. Un son que vous allez essayer de deviner et qui me permettra de vous poser des questions ensuite. Alors écoutez bien, ça ressemble à ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Un ruisseau ?
Un ruisseau, pas mal.
Dans l'avion ?
Dans l'avion, on se rapproche un petit peu. Ça, c'est Barbara Belvisi qui disait ça. Thiago, Rodriguez, vous avez une idée ?
Du vent sur Mars.
Du vent sur Mars. C'est un son qui a été pris par Chris Hadfield, un astronaute anglais. Et c'est le son de la Station Spatiale Internationale. C'est un son qui est présent en permanence, et pour nous expliquer un petit peu ce que ça peut représenter, je vous propose d'appeler au téléphone Sébastien Rouquette, qui est chef de projet des vols paraboliques du CNES, qui va nous expliquer ce qu'on vient d'entendre. Bonjour Sébastien Rouquette.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on entendait là à l'instant ?
Oui, alors c'est effectivement... on pourrait dire le bruit de fond de la Station Spatiale Internationale que Chris Hadfield, l'astronaute canadien, s'est amusé à enregistrer pendant l'une de ses missions. Et c'est le son qu'on entend quasiment en permanence dans la Station Spatiale Internationale.
Barbara Belvisi le comparait un peu au bruit d'un avion. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près similaire ?
Ouais, mais en fait, j'allais dire, c'est le bruit standard qu'on peut entendre si on est en ville, quand on est dans les transports en commun. Alors l'avion en fait partie. Alors dans l'ISS, effectivement, il n'y a pas de moteur comme dans un avion, mais il y a des équipements. On est entouré, cerné par des équipements techniques, qui sont des équipements qui permettent à la station de fonctionner, mais qui sont aussi des instruments scientifiques. Et tout ça, ça fait du bruit. Donc, de manière objective, le bruit standard dans la Station Spatiale Internationale, c'est entre 40 et 60 décibels.
Ce qui correspond à une machine à laver ou quelque chose comme ça ?
Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, dans les 40 décibels, c'est plutôt aujourd'hui le standard des lave-vaisselle plutôt performant. Et 60 décibels, c'est plutôt l'essorage d'une machine à laver, pour rester dans l'analogie domestique. Voilà, c'est un petit peu la gamme de bruit qui est en permanence dans l'ISS. Alors c'est pas forcément gênant, parce que quand on vit en ville, on est habitué, hein, finalement, on s'habitue à un bruit ambiant. Il y a des gens qui ont du mal à dormir à la campagne parce que ça fait pas de bruit. Il y a des gens qui ont du mal à dormir en ville parce que justement il y a une ambiance sonore permanente. Et on s'habitue à tout ça, en fait, à ces environnements. Donc les astronautes qui sont dans l'ISS en permanence ne sont pas forcément gênés à long terme, hein, par cette ambiance sonore. Et puis ils ont quand même la possibilité de s'isoler un petit peu du bruit, parce qu'on peut mettre un casque anti-bruit, et puis parce que la nuit, malgré tout, quand on est dans sa chambre individuelle, on est un petit peu mieux isolé, il y a moins d'équipements qui tournent pendant la phase de repos, parce que les expériences scientifiques sont arrêtées pour l'essentiel, donc ça fait un peu moins de bruit.
En tout cas, ce que ça montre, et c'est pour ça que j'ai voulu que le son reste tout du long, c'est que quand même au final, ça peut taper un petit peu sur le système, j'imagine. Alors quelques mois peut-être dans l'ISS, avec l'idée qu'on retourne ensuite sur Terre, ça peut-être passer, mais pendant des années et des années, non-stop, d'entendre ce bruit-là, je pense que ça peut quand même, dans ce vide de l'espace qui, à l'extérieur, est complètement silencieux, à l'intérieur, ça fait un petit peu de bruit. Nous étions sur l'émission Big Bang qui touche à sa fin. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Sébastien Rouquette pour votre intervention. Merci à Thiago Rodriguez. Votre pièce La Distance est en tournée dans toute la France à partir de janvier, et le texte est paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Merci à vous Barbara Belvisi. J'espère qu'on vous reverra avant que vous ne partiez dans l'espace. Et à vous aussi Guillemette Gauclincor, qui vous occuperez peut-être de Barbara lorsqu'elle sera là-haut. Votre livre à vous, L'Humain et l'Espace, est publié aux éditions du CNES. Merci beaucoup au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Célim Guéribi, à la vidéo Mélissa Etroit et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux scientifiques et un invité mystère pour une émission pleine de prix Nobel quantique. Tout de suite, après le journal, retrouvez Femmes d'exception par Laure Adler, aujourd'hui avec Simone de Beauvoir.